Chers et sœurs, chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité. Donc nous le bénissons pour cela. Nous remercions pour la première partie où nous avons lu ce passage de l'Évangile de Jean, chapitre 19, jusqu'au chapitre 20, verset 10. Et donc le texte où nous allons donc méditer ce matin, c'est donc Jean chapitre 20, versets 11 à 29. Et le titre que j'ai donné, c'est « Jésus, le bon berger, est ressuscité ». Vous savez que dans les évangiles, à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus disait à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme offre sa vie, qu'il souffre, et qu'il allait ressusciter. Mais à chaque fois, il est dit que les disciples ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Et à plusieurs occasions, il a pu leur parler de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Et notamment dans le texte de Jean chapitre 10, dans les versets 11 à 18, lorsque il a dit qu'il était donc le bon berger, ça a fait écho dans leur cœur par rapport à ce que David disait dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et donc dans ce passage de l'évangile de Jean chapitre 10, il leur avait parlé de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Alors je vais juste lire quelques versets de ce chapitre 10 de l'Évangile, quand il dit au verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. » Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors qu'il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs, et plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, et pourquoi l'écoutez-vous ? Et d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Oui, le Seigneur Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et donc à plusieurs reprises, il a parlé donc de cela. Que représentent donc les brebis ? Les brebis sont ceux, il dit, que le Père lui donne. Ceux qui mettent leur foi en lui, en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 6, verset 37, il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et dans la suite de ce texte de Jean chapitre 10, le Seigneur explique cela dans les versets 26 à 29. Déjà, je vais lire le verset 25, il dit « Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, il dit, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus, le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Êtes-vous une brebis du Seigneur? Chacun devrait se poser cette question. Est-ce que j'ai mis ma confiance en Jésus? Est-ce qu'il est mon berger? Suis-je sa brebis? Le bon berger s'est donné pour ses brebis. Et parce qu'il n'est pas un mercenaire qui abandonne les brebis, comme on l'a lu dans ce texte de Jean chapitre 10, et qui prend la fuite, le Seigneur Jésus, après sa résurrection, va lui-même faire la démarche d'aller vers ses brebis, de retrouver ses brebis. Il sait qu'il les a laissées dans une situation difficile. Beaucoup étaient dans la tristesse, dans la crainte, dans la peur. Et plusieurs se demandaient, voilà, qu'est-ce qu'allait-il advenir pour eux? Et donc le Seigneur Jésus, et c'est ce qu'on va voir, à travers ses apparitions, le Seigneur Jésus va lui-même faire cette démarche d'aller retrouver ses brebis. Donc nous allons lire ce passage de Jean, chapitre 21, où Jean va mettre en avant trois apparitions du Seigneur Jésus-Christ. Déjà à Marie de Magdala, le dimanche matin. Après, le soir, il va retrouver 10 disciples, Thomas étant absent. Et la semaine d'après, une autre apparition, troisième apparition, avec Thomas qui est présent. Et puisqu'il est le berger de tous ceux qui viennent à lui, de tous ceux qui le reconnaissent comme étant le Fils de Dieu, le Messie promis, celui qui est venu et qui a donné sa vie pour eux, le Seigneur Jésus, de la même manière qu'il est venu à la rencontre de ses brebis, je crois qu'il vient aussi à la rencontre de chacun de nous. Il connaît, et c'est ce qu'on va voir, le Seigneur Jésus est ce bon berger qui connaît, qui est sensible à notre tristesse. Il connaît notre crainte, mais aussi il voit lorsque nous faisons preuve d'incrédulité. Et la première chose que nous voulons voir ce matin, c'est ce texte de Jean chapitre 20. Nous lisons les versets 11 à 18, où nous verrons que Jésus est sensible à la tristesse de Marie de Magdala. Jean chapitre 20, à partir du verset 11. Il dit cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Jusque-là pour la lecture. Donc là, nous voyons dans ce passage que Marie de Magdala, elle pleure. Elle était dans un total désarroi parce que celui qui l'avait délivré de sept démons, le jour de sa conversion, avait été crucifié. Et ça, nous le voyons dans Luc chapitre 8, verset 2. Celui qu'elle avait servi avec d'autres femmes était mort. Et comble du malheur, alors qu'elle avait préparé les aromates et du parfum pour embaumer le corps du Seigneur, très tôt, le dimanche matin, à l'aube, le texte nous dit qu'il faisait encore noir. Elle arrive et trouve que la pierre qui fermait le sépulcre avait été roulée. Elle entre dans le sépulcre et elle ne trouve pas le corps de Jésus. Et le texte nous dit donc que saisie de frayeur, elle baisse le visage. Elle baisse le visage contre terre et se met à pleurer. Et là, Marie de Magdala est dans une grande tristesse. Il y a des anges qui donc lui posent cette question, « Mais femme, pourquoi pleures-tu ?» Et donne les raisons de sa grande tristesse. Elle dit, « Ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. » Vous savez, depuis le jour où Marie de Magdala a fait de Jésus le Seigneur de sa vie, non seulement elle s'est mise au service de son maître et l'assistait de ses biens, mais cette femme a continué à suivre de près son Seigneur alors que celui-ci passait par les épreuves inhumaines de la croix. Elle était là, et on l'a lu ce matin, près de la croix de Jésus, au moment de sa mort. Elle était là aussi lorsqu'on a placé le corps de Jésus dans ce sépulcre. Elle a vu. Et à peine le sabbat terminé, elle est la première à se rendre au sépulcre. Et au verset 11, nous voyons qu'elle reste là près du sépulcre, alors que les deux autres disciples, Pierre et Jean, sont retournés chez eux. Elle est restée là. Alors je me suis posé la question, mais combien de temps allait-elle rester là près de ce sépulcre? Et là, on voit tout l'amour de cette femme pour son Seigneur. On voit tout l'attachement que cette femme avait pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur avait dit à Simon dans Luc chapitre 7, cet homme qu'il avait invité à manger mais n'avait pas pratiqué les choses de base en termes d'hospitalité et d'accueil. Et il y a eu cette femme pécheresse qui est venue aux pieds de Jésus, qui a pleuré, qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et le Seigneur avait dit à cet homme, à Simon, « C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Et il dit que « Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et Marie de Magdala, vous savez, frères et sœurs, savait que Jésus lui avait beaucoup pardonné. Et c'est pour cela qu'en retour, elle manifeste un si grand amour envers son Seigneur. Et ça me fait dire que nous ne mesurons pas l'ampleur de ce qu'est le péché, de ce qu'est notre péché. Nous minimisons le péché. nous minimisons même le sacrifice de Jésus à la croix, puisque nous manifestons malheureusement tellement peu d'amour. Et si, comme cette femme, nous reconnaissions que le Seigneur nous a tellement pardonnés, parce que nous sommes tellement des grands pécheurs, nous aurions tellement aimé notre Seigneur et notre Dieu. Et nous pouvons réfléchir par rapport à cela. Comment montrons-nous notre amour envers notre Seigneur? Est-ce que nous sommes conscients qu'il nous a tellement aimés à cause de nos grands péchés? Et là, ce passage nous montre que le Seigneur Jésus, connaissant la peine de sa brebis, et puisqu'il est le bon berger, il vient à sa rencontre pour lui apporter le réconfort dont elle a besoin. Et il le fait de deux manières. Il l'interpelle, déjà comme l'ont fait l'ange, lorsqu'il lui dit « Femme ou Madame, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?» Mais aussi, il l'appelle par son nom, Marie. Et c'est là le berger qui connaît sa brebis, mais la brebis qui reconnaît son berger. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et là, le Seigneur l'appelle par son nom. Et Marie a entendu la voix de son berger. Cette voix était différente de celle de l'ange. Et en entendant cette voix, sa tristesse s'est changée en joie. Comme il est dit dans ce texte de Jean, chapitre 16, verset 1, « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Marie de Magdala a reconnu, en entendant la voix de son Seigneur, que c'était donc, oui, son maître qui était là. Donc nous pouvons ressembler, frères et sœurs, à cette brebis qui a montré son attachement à son Seigneur en lui étant fidèle et malheureusement se retrouve dans la peine et la tristesse, quelles que soient les raisons. J'aimerais nous encourager, et ce texte nous encourage à ne pas laisser l'obscurité de notre situation actuelle nous empêcher de voir le bon berger qui est là près de nous. Parce que Marie, elle voyait le jardinier, elle voyait quelqu'un, mais elle pensait que c'était le jardinier. Elle ne voyait pas que c'était le Seigneur Jésus. Parfois, notre regard est voilé, nous ne voyons pas toujours que le Seigneur est là à nos côtés. Et bien que le bon berger sache exactement les raisons de notre chagrin, n'hésitons pas à lui dire pourquoi nous pleurons. N'hésite pas à lui dire pourquoi tu pleures. N'hésite pas à lui dire ta situation. Et malgré cette situation, certes difficile, n'oublie pas que ton berger te connaît personnellement. Il te connaît par ton nom. Il sait. Il connaît sa brebis. Et si tu écoutes sa voix douce et légère et qui t'appelle, alors tu trouveras le réconfort pour ton âme. Lorsqu'elle va se retourner, elle va voir son seigneur et elle va dire « Maître ». Elle va le reconnaître. Et la dernière chose qui doit nous encourager et ne pas laisser la tristesse nous envahir au point même de nous laisser là complètement bloqués, le Seigneur lui dit, va dire, allez annoncer aux disciples ce que tu as vu. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit. Elle obéit à l'ordre de son maître. Elle va trouver les frères pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus, que Jésus est ressuscité. La deuxième apparition que j'aimerais voir avec vous, c'est dans le verset donc 19 à 23. Je vous invite à lire ce texte avec moi. Jean chapitre 20, verset 19, il dit « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors que là, on voit que les disciples, donc ils sont retournés, ils sont restés ensemble. Thomas n'est pas là. Et on voit que les disciples, il est dit qu'ils étaient restés enfermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et à cause de cela, donc, ils restaient chez eux, cloîtrés. Certains sont sortis rapidement, constater que le corps de Jésus n'était pas dans le sépulcre. Et ils sont retournés chez eux se cacher. Là encore, on voit que c'est le Seigneur Jésus qui va vers ses disciples. C'est lui qui se présente au milieu d'eux et leur dit... La paix soit avec vous. Et sans attendre aucune explication qui pourrait justifier leur attitude, le Seigneur ne leur dit rien, ne leur demande rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur montre ses mains et son côté pour les rassurer, pour leur dire « Oui, c'est moi, c'est bien moi. » Et là encore, nous pouvons dire que notre Seigneur, il sait, il connaît lorsque nous vivons dans la crainte, lorsque nous sommes dans la peur du « quoi dira-t-on ?». Et on peut imaginer dans ces pays où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, le Seigneur leur apporte aussi le réconfort, le soutien, et leur dit aussi... Tout comme nous nous rappelons aujourd'hui de la résurrection, nous pensons à tous ces chrétiens qui sont en Ukraine ou dans d'autres pays où il y a la guerre. Ils savent que c'est le jour où Jésus, et ils se rappellent de Jésus, de leur sauveur qui est ressuscité. Et cette parole du Seigneur, la paix soit avec vous, même si tout est bouleversé autour de vous, alors le Seigneur leur donne le réconfort dont ils ont besoin. Et donc, à chacun de nous qui avons ce sentiment de crainte, le Seigneur nous dit aussi que la paix soit avec toi. Et de la même manière qu'il a envoyé ses disciples, et cela est raconté dans les Actes des Apôtres, pour faire de toutes les nations des disciples, il leur a donné son esprit pour cela, et les disciples ont accompli l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés, et c'est cette œuvre et notre œuvre aussi, encore aujourd'hui, de dire que oui, Jésus est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, et qu'en croyant en lui, vous avez la vie en son nom, vos péchés peuvent être pardonnés, et vous aurez la vie éternelle si vous croyez en Jésus-Christ. Le Seigneur disait dans Jean chapitre 10, verset 16, il disait que « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Donc voilà, il y a encore des brebis, le Seigneur connaît, il y a encore des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et le devoir de tout chrétien, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle, d'annoncer, de dire que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Comme ce geôlier, lorsque l'apôtre Paul était en prison, il a entendu Paul et Silas qui chantaient des cantiques. Et puis, après, il vient leur dire, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'apôtre Paul, il dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il dit que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc si vous êtes là et que vous savez que vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus, et qu'il n'est, vous ne pouvez pas dire qu'il est votre sauveur, qu'il est votre Seigneur, qu'il est votre maître, alors aujourd'hui, c'est le jour du salut pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez vous mettre à genoux devant le Seigneur et lui dire, oui, ce sacrifice à la croix, c'est pour moi aussi que tu l'as fait. Troisième apparition de notre Seigneur, c'est dans les versets 24 à 29, que nous pouvons lire. Et donc là, Thomas est présent, donc on est la semaine d'après. Au verset 24, il est dit que Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets dans mon doigt dans la marque des clous, si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Et 8 jours après, les disciples de Jésus étaient donc de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Voilà, parce que nous faisons partie de ceux-là, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Donc Thomas, lui, n'a pas voulu croire ce que disaient les autres disciples concernant la résurrection de Jésus. Il disait qu'ils avaient vu le Seigneur, mais lui, il ne voulait pas croire. Il voulait voir les preuves palpables. Thomas fait preuve d'incrédulité. Et là encore, peut-être qu'en ce matin, vous vous dites, moi, je suis comme Thomas. Je veux voir pour croire. Alors sachez aussi que le Seigneur Jésus connaît votre incrédulité. Et comme Thomas, il saura vous convaincre par son esprit pour que l'évangile de sa gloire brille dans vos cœurs. C'est ce que l'apôtre Paul dit, qu'il explique que si notre évangile est voilé, il dit, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, Nous, alors on peut faire preuve d'incrédulité, on veut voir des choses palpables, pourquoi? Et parfois, pour nous qui avons mis notre confiance en Jésus, nous sommes parfois aussi comme Thomas, nous succombons à la tentation et malheureusement laissons le diable mettre dans notre esprit cette pensée d'incrédulité. Et dans certaines situations, dans notre vie, nous ne croyons pas que Dieu soit capable de faire pour nous ce qui est impossible. Et parce que Thomas, c'était ça. Jésus, il est mort, donc c'est impossible qu'il soit ressuscité. Et s'il l'est, il faut vraiment montrer des preuves pour cela. Et le Seigneur Jésus, il avait dit à Marthe, la sœur de Lazare qui était mort, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Dans Jean chapitre 11, verset 40. Et à nous aussi, il le dit comme il a dit à ce père dont le fils était possédé par des démons. Il disait à Jésus, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Alors Jésus dit à ce père, « Mais si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Et parfois nous sommes dans des situations, et pour nous, on fait preuve d'incrédulité parce qu'on ne croit pas que Dieu soit capable de changer la situation. On pense que notre situation elle est trop trop grande pour que quelque chose puisse changer. Et le Seigneur nous dit, mais pourquoi fais-tu preuve d'autant d'incrédulité? Tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur nous donne à ne pas être comme Thomas en tant qu'incrédule, mais que nous puissions être comme ce Thomas qui reconnaît que Jésus-Christ est son Sauveur, son Seigneur. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu » et qui marche par la foi, sachant que son Seigneur est tout-puissant pour accomplir toutes choses. Alors là, frères et sœurs, Jésus, le bon berger, est ressuscité. Il a donné sa vie pour ses brebis. Les brebis, ce sont ces personnes qui ont chacune une vie particulière. Lorsque nous voyons ces personnes-là, Marie de Magdala, qui était, elle, possédée de sept démons, Pierre et Jean, les disciples, et les autres qui étaient des pêcheurs de métier, Matthieu, qui était un péager, etc., etc. Chacun, le Seigneur est venu chercher chacun parce qu'il les avait choisis pour être ses brebis. Et ces personnes ont rencontré le Seigneur Jésus, ont mis leur confiance en lui et leur vie ont changé. Et ces personnes sont devenues des disciples de Jésus et l'ont suivi. Et chaque brebis a ses propres faiblesses. Il y a celles qui sont éprouvées, qui vivent dans la tristesse, mais malgré les difficultés, demeurent attachées à leur Seigneur. Il y a des brebis qui sont craintives, mais avec l'assistance du Saint-Esprit, ces mêmes brebis deviennent de puissants prédicateurs qui n'ont plus peur pour leur vie. Et c'est pour cela que Pierre, Jean et les autres, ils vont aller avec la puissance du Saint-Esprit annoncer l'Évangile. Et même alors qu'ils étaient dans la crainte, Jésus ressuscité, lorsqu'ils étaient face à ceux qui ont condamné le Seigneur et qui leur disaient de ne pas parler au nom du Seigneur Jésus, alors il dit, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc ils étaient prêts à mourir pour Jésus, et même lorsqu'on les mettait en prison, ils étaient dans la joie, puisqu'il le faisait pour tout se passer pour le Seigneur. Et puis, il y a des brebis qui sont incrédules par moment, mais qui finissent par croire. Et ils voient leur connaissance du berger, de leur bon berger renouvelée. Et comme Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Les brebis sont celles qui reconnaissent Jésus comme leur maître, leur enseignant. Donc, elles se laissent enseigner par lui. Donc, ce sont des personnes qui aiment la parole, qui aiment lire la parole parce qu'elles ont besoin d'apprendre de leur maître. Est-ce que c'est notre cas? Combien de temps passons-nous au pied de notre maître pour l'écouter, comme l'a fait Marie qui a choisi la bonne part? Les brebis sont celles qui reconnaissent Jésus comme étant leur Seigneur, celui qui a autorité sur leur vie et celui à qui elles obéissent. Est-ce que c'est le cas aussi? Est-ce que nous obéissons ou est-ce que nous sommes des rebelles? Les brebis sont celles qui reconnaissent Jésus comme étant leur Dieu, celui qui est digne de recevoir toute adoration, celui qui est l'objet de leur affection. Et lorsque nous nous retrouvons dimanche après dimanche pour adorer, louer le Seigneur, prendre le repas, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour nous parce que nous sommes conscients de ce que Jésus-Christ a enduré à cause de nos péchés? Et ce moment où son Église se retrouve pour l'adorer, est-ce que nous mettons vraiment ce moment à part pour le faire? Alors, chers amis, si vous ne faites pas encore partie de cette bergerie, sachez que Jésus est mort également pour vous. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, il est dit qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, le sacrifice de Jésus, une fois pour toutes, est suffisant pour tous ceux et celles qui le reconnaissent comme étant Sauveur, Seigneur et Maître, et qui mettent donc leur confiance en lui. Et donc, vous pouvez venir aujourd'hui et manifester votre foi en Jésus-Christ, vous humilier devant lui et le recevoir dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur. Et pour nous qui avons déjà fait donc ce pas de foi, nous qui savons que nous sommes donc les brebis du Seigneur, n'oublions pas que notre Sauveur est ressuscité, qui connaît notre situation, que ce soit la tristesse, la crainte ou l'incrédulité qui peuvent nous caractériser par moments, et c'est lui qui vient à nous et qui vient nous réconforter. Actuellement, il est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous, il est dit, et il nous a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, et qu'il est allé auprès du Père nous préparer une place afin que nous soyons toujours avec lui. Et nous attendons une chose, c'est qu'il revienne pour nous prendre avec lui. Donc notre Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne. Et pour terminer, je vais juste lire ce passage de Tite, chapitre 2, en attendant le retour de notre Seigneur. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donc, nous puissions attendre la manifestation de notre Seigneur, mais en attendant, accomplissons les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, témoignons-lui de notre amour et que nous puissions l'honorer par nos vies. Amen.